Bonsoir, merci d'être avec nous pour une émission consacrée aujourd'hui à ce qui fut pendant plusieurs décennies la colonne vertébrale des États-Unis, mais qui en est aujourd'hui devenue une région périphérique, bien qu'au centre du pays. Je veux parler du Mississippi. Symbole de la période pionnière des États-Unis, quand les bateaux à aubes rivalisaient de vitesse sur ses eaux, le Mississippi, fleuve immense de 3730 km de long, semble irrémédiablement associé à ce passé, à la fois glorieux mais aussi douloureux. De nombreux esclaves ont vécu sur ses rives et le racisme y est toujours très présent, comme l'ont montré les meurtres de George Floyd et de Michael Brown, respectivement à Minneapolis et Ferguson, deux villes riveraines du Mississippi. Et puis les défis de cette région, ils ne sont pas seulement politiques et sociaux, ils sont également climatiques. L'ouragan Katrina l'a bien montré en 2005. Enfin, le Mississippi, c'est une culture et c'est aussi des représentations qui lui donnent une aura bien particulière, plus large sans doute que son poids réel dans la vie américaine.
Connaissez-vous le Mississippi ? C'est l'un des plus grands fleuves du monde. Il mesure près de 4000 km de la source à l'embouchure. On y trouve évidemment toutes sortes de poissons.
Mais aussi des ratons laveurs.
Des castors.
Des rats musqués. Et il fallait s'y attendre.
De terribles alligators.
Les hommes chassent les alligators pour revendre leur peau, mais de temps en temps, c'est au tour des alligators de capturer les hommes.
Ah, ma jambe !
France Culture. Géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous parlons donc ce soir du pays de Tom Sawyer, personnage de Mark Twain, interprété ici par Ingrid Jolin. Et pour ce faire, eh bien, je suis en compagnie du géographe Christian Montès, dont le livre « Mississippi, le cœur perdu des États-Unis » paraît aux éditions CNRS. Bonsoir Christian Montès.
Bonsoir Mathieu.
Et puis en fin d'émission, nous reviendrons sur la figure d'un autre géographe, Mike Davis, un homme très peu conventionnel, qui nous a quittés le 25 octobre 2022. L'auteur du célèbre ouvrage City of Quartz, que l'on surnomme souvent la biographie de Los Angeles. C'est Marc Saint-Upéry qui nous en parlera et ce sera vers 20h45. Mais d'abord...
Des flèches, un plan, des ronds et des points, c'est la carte introductive.
D'abord, la carte introductive que l'on trouve dans votre livre, Christian Montès. C'est une carte en noir et blanc, mais que nous avons colorisée avant de la poster sur notre site internet et sur Twitter pour en faire ressortir l'immense tâche que représente le bassin versant du Mississippi. Alors pourquoi avoir choisi cette carte-là en particulier ?
Alors c'est un choix qui était à la fois pour permettre de localiser le Mississippi. Alors on dit que c'est le cœur des États-Unis, mais on voit bien quand on regarde la carte que le Mississippi il coule plutôt à droite, pourrait-on dire. Donc les géographes diraient bien évidemment à l'est, parce que c'était le cœur des États-Unis au XIXe siècle, au moment où la totalité du pays n'était pas encore intégralement colonisée. Bon, la ruée vers l'ouest avait commencé certes, mais elle s'arrêtait justement à peu près au Mississippi, qui est devenu à ce moment-là, une artère absolument majeure, à la fois pour, non pas pour le passage en tant que tel, mais pour à la fois permettre l'accès à un certain nombre de zones dans les États-Unis et puis pour permettre ensuite l'exportation de tout un ensemble de marchandises et de cultures qui étaient celles du bassin du Mississippi. Et cette carte permet aussi de montrer que le Mississippi est finalement le fleuve le plus gigantesque du pays, même si d'autres fleuves sont importants, comme le Colorado par exemple, avec tous les problèmes autour de l'eau, mais qui sont là cette fois-ci pas assez d'eau, et le Mississippi c'est plutôt trop. Et aussi pour montrer que lorsque l'on regarde son cours, on a des villes qui peuvent être importantes, mais qui aujourd'hui, dans les États-Unis actuels, ne sont pas les plus importantes, ou en tout cas, ne sont plus les plus importantes, d'où le sous-titre de l'ouvrage, bien évidemment, « Cœur perdu ».
Alors, il y a cette limite du bassin versant du Mississippi qu'on voit sur votre carte. Et en effet, quand on la colorise en bleu, on se rend compte que c'est un bassin versant immense qui fait à peu près la moitié des États-Unis. Est-ce qu'on peut se rendre compte un petit peu de l'importance de ce fleuve par rapport à d'autres grands fleuves mondiaux ?
Oui, c'est le troisième plus grand bassin après l'Amazon et le Congo. Donc ça fait plus de 3 millions de kilomètres carrés. Donc ça fait presque 6 fois la France, pour vous donner une idée. Donc c'est quelque chose d'assez colossal. Et puis pour son débit, alors là, il est plus modeste. C'est un fleuve de pays tempéré. Donc il a le sixième débit le plus important, donc 10 fois le Rhône, pour vous donner en moyenne. Hein, ce sont toujours des moyennes, parce qu'évidemment, la carte, il y a un petit encart qui l'indique bien. Les débits sont extrêmement différents du début jusqu'à la fin, ce que évidemment tout le monde sait bien.
Oui, sauf que le débit n'est pas maximal à la fin.
Non, il n'est pas maximal à la fin parce que une branche a été détournée à partir des années 50 et surtout à partir des années 70 pour permettre la continuité du delta, que le delta ne disparaisse pas totalement, et aussi pour éviter qu'il y ait trop d'eau d'un seul côté. Mais ce débit dans la branche de la Tchafalaya, comme elle est appelée, est limité à 30% du débit total pour éviter justement que l'autre ne dépérisse.
Alors comment se fait-il que ce fleuve immense, finalement, ait moins d'importance, ou paraisse avoir moins d'importance que d'autres fleuves qui sont pourtant plus petits? Bien sûr, on associe le Mississippi aux États-Unis, mais dans notre esprit, c'est vraiment une certaine Amérique. Et c'est pas l'Amérique, c'est plutôt l'Amérique du passé, même le Mississippi.
C'est l'Amérique du passé aussi. De toute façon, le Mississippi a eu une importance particulièrement après de la fin du 18e jusqu'à la fin du 19e, pendant un bon siècle, qui était beaucoup plus les siècles à la fois de l'exploration et de la première mise en valeur des États-Unis, où là, la première mise en valeur des États-Unis étant largement agricole au départ, et puis ensuite devenue en partie industrielle. Et c'est là où il a été vraiment le plus important, avec le contrôle de cet espace qui était aux mains des villes, donc la bourse du coton, la bourse des grains, tout un ensemble de bourses qui contrôlaient, par exemple Memphis contrôlait 40% du coton mondial. C'était des villes particulièrement importantes. Et puis le blé, etc., était contrôlé par Minneapolis, bon, en partie par Chicago aussi, mais et le port principal était la Nouvelle-Orléans, qui était l'exutoire finalement de la totalité des grandes plaines. Donc cette partie-là, oui, ça a été extrêmement important. Mais avant et encore aujourd'hui, la partie est des États-Unis, la côte est des États-Unis, qui a été colonisée en premier, et c'est là où se trouvent les institutions financières majeures, c'est là où se trouvent les institutions politiques majeures. Et même si les relations entre les États-Unis et l'Europe ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient, alors c'est très bien qu'elles ne soient plus coloniales, bien évidemment, comme ça pouvait être au XVIIe siècle, par exemple, ou au XVIe pour les Espagnols, mais cette partie-là des États-Unis reste la plus peuplée et la plus puissante économiquement, même si certaines villes ont connu des déclins relatifs ou absolus. Et on a de l'autre côté, ça a été remplacé non pas aujourd'hui par le centre, qui est plutôt vide dans les États-Unis, mais par la côte ouest, avec ce qu'on a appelé le basculement pacifique.
C'est très étonnant, Christian Montez, parce que c'est un petit peu comme si les Américains arrivaient sur la côte est, s'étaient à un moment donné arrêtés sur le fleuve, le Mississippi, puis ensuite étaient repartis et avaient laissé vide, c'est un petit peu le sens de votre titre d'une certaine manière, cette région qui pourtant constitue la majeure partie de l'Amérique du Nord.
Oui, alors ils se sont arrêtés sur le Mississippi d'abord parce que le Mississippi était très large et donc évidemment il fallait le traverser, ce qui n'était pas une mince affaire. Et donc ça a créé tout un ensemble de villes qui ont pris la place plus ou moins d'un certain nombre de forts, de petits comptoirs que les Français avaient déjà mis en place plutôt à partir du Canada et puis ensuite seulement à partir de la Louisiane pour faire de la trappe, c'est-à-dire pour utiliser des pots de castor, de loutre, enfin non, de la loutre a été introduite bien plus tard, etc. Enfin voilà, des pots de bêtes dont ils faisaient le commerce, et puis un tout petit peu d'agriculture, et ce sont devenus surtout des points à partir duquel on allait vers l'ouest. Voilà, donc c'est ça qui a fait leur richesse, et ensuite bien évidemment l'exportation ou la transformation des produits locaux, qu'il s'agisse dans le nord plutôt du bois par exemple, avec des gigantesques convois de bois flotté qui descendaient le fleuve, tout simplement. Et, ou alors le coton, qui partait soit vers l'exportation par la Nouvelle-Orléans, soit vers des usines nationales, vers Cincinnati, en remontant l'Ohio. Et puis, toutes les cultures, la grande culture des grandes plaines, qu'il s'agisse de blé, puis ensuite de maïs, puis ensuite de soja, de riz au sud.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui ce centre soit devenu le cœur perdu, comme vous l'appelez?
Parce que ça n'a duré qu'un temps. C'est-à-dire à partir du moment où, d'une part, il y a eu ce basculement pacifique, essentiellement à partir de la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale, avec une réorientation des flux de migration. Il y avait déjà eu quand même la ruée vers l'or de Californie en 1848, qui était extrêmement importante, qui avait fait de San Francisco le deuxième pôle bancaire américain. Et ensuite, la nouvelle économie s'est aussi installée plutôt dans des universités prestigieuses de l'Est, puis de l'Ouest.
Elles auraient pu s'installer dans des universités prestigieuses, mais peut-être y en a-t-il moins
Il y en a quelques-unes, bien évidemment. Par exemple, Minneapolis est un des pôles de la technologie médicale aux États-Unis, un pôle important de la technologie médicale. Mais la Californie était plus proche d'un certain nombre de nouveaux marchés et de toute façon, la côte Est était plus proche d'autres marchés. Alors bien sûr, il y a le marché intérieur américain, mais
on est très loin de tout finalement quand on est dans l'intérieur des États-Unis puisqu'on est très loin des deux côtes.
Exactement. Et puis surtout, cette colonisation du centre étant au départ essentiellement agricole et n'a jamais été très peuplante. L'agriculture a été très très rapidement mécanisée.
Aucun autre fleuve ne possède un bassin hydrographique aussi considérable. Les eaux qu'il reçoit proviennent de 28 États et territoires, du Delaware sur la côte atlantique et de toute la partie du pays qui s'étend entre le Delaware et l'Idaho sur le versant du Pacifique, soit 45 degrés de longitude. Le Mississippi accueille et achemine au golfe du Mexique les eaux de 54 affluents que sillonnent des navires à vapeur, et celle de centaines d'autres qu'empruntent des bateaux à fond plat. La superficie de son bassin hydrographique est égale à celle des territoires réunis de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse, de l'Irlande, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie et de la Turquie. Et cette immense région est presque partout fertile. La vallée du Mississippi proprement dite l'est à un degré exceptionnel.
Géographie à la carte sur France Culture, et on parle du Mississippi à l'instant. C'était une adaptation du livre « La vie sur le Mississippi » de Mark Twain, récit semi-autobiographique, qui est aussi un livre de voyage, un peu comme vous avez fait d'ailleurs, Christian Montes, parce que vous êtes quelqu'un qui a descendu comme ça le Mississippi pour le raconter dans votre livre avec l'œil du géographe. Comment vous êtes descendu? Est-ce que vous avez pris le bateau? Est-ce que vous avez plutôt pris le camion, le car, la voiture?
J'ai classiquement pris plutôt la voiture ou la marche à pied quand c'était possible.
Pourquoi pas directement sur le fleuve qui était votre objet d'étude?
Ça ne s'est pas trouvé. Et puis surtout, les croisières fluviales sont relativement peu nombreuses sur le Mississippi. Alors, il y en a une ou deux par an parce que la partie sud est un couloir de la pétrochimie, donc extrêmement pollué, surnommé Cancer Alley. Donc, ce n'est pas d'une beauté ravageuse.
Donc, ça, c'est dans le delta, quoi, à peu près?
C'est entre Baton Rouge et... pas vraiment dans le delta, non. Plutôt entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans, là où il y a les grandes installations portuaires aussi et les grandes installations pétrochimiques. Donc c'est pas un fleuve que l'on descend véritablement, que l'on peut descendre. On peut aller sur un bateau dans une petite marina par exemple et puis faire un petit tour en bateau pour aller pêcher, puisque c'est une zone de pêche extrêmement importante. Il y a beaucoup de poissons dans cet espace. On peut aussi se promener le long des rives pour essayer d'en voir les oiseaux, puisque c'est un couloir de migration extrêmement important, avec toute une partie du lit majeur qui reste une zone que les Américains américain appelle wilderness, donc non mise en valeur. On peut le faire comme ça, ou alors on peut prendre la voiture, mais la voiture, c'est très très ennuyeux parce que le damier américain, les États-Unis ont été colonisés selon un damier, et le fleuve, évidemment, se rit complètement du damier, donc on passe son temps à passer sur un pont, voir à ce moment-là le fleuve. Bon, on s'arrête en général pas vraiment sur un pont. Ensuite, on le perd de vue, puis on tourne, on le retrouve. Alors, il y a une route nationale qui a été créée et qui permet, avec toutes les indications possibles, donc pour retrouver le fleuve. Donc, c'est plutôt comme ça que je l'ai fait par morceaux, par le haut, par le bas, par le milieu.
Mais d'ailleurs, ça nous indique aussi un petit peu la forme du fleuve lui-même. Vous nous avez dit qu'il ne coulait pas très rapidement, parce que d'abord, il est très très large, il n'a pas une pente non plus très importante. Non. Et c'est un fleuve qui est très sinueux, qui fait comme ça des grands serpentins. Et ce qui fait que, par rapport à la distance en vol d'oiseau du nord au sud de ce fleuve et la distance du fleuve lui-même, il y a une énorme différence. Le fleuve est beaucoup plus long.
Oui, 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 il est beaucoup plus long parce qu'il fait des méandres et des méandres. Alors même s'il a tendance à les recouper lui-même, ces méandres, mais ensuite il en recrée d'autres. Donc la longueur actuelle du Mississippi est plus courte qu'elle ne l'était auparavant, parce qu'il y a eu des méandres qui sont recoupés naturellement et d'autres qui ont été recoupés artificiellement. Ce qui fait que dans les années 30, les sources du Mississippi ont été réaménagées, donc il y a un poteau sur lequel est marqué ici, le majestueux Mississippi commence sa source de 4200 km. Donc on pourrait se dire, mais vous avez indiqué que le Mississippi fait 3730 km. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, au moment où je parle, un méandre vient de la réduire encore. Et d'ailleurs, Mark Twain avait de manière extrêmement humoristique, dit que si ça continuait comme ça, avec les recoupements de méandres, d'ici, alors je ne sais plus combien de temps, 150 ans, eh bien les rues de la Nouvelle-Orient et les rues de Cairo, qui étaient à 1000 et quelques kilomètres, allaient être l'une à côté de l'autre, puisque le Mississippi ne ferait plus que 3 kilomètres.
Est-ce qu'il y a un air de famille entre les différents États, parce qu'il y en a beaucoup, que traverse le Mississippi ?
Alors, un air de famille. Alors bon, on entend parler l'américain un peu partout, c'est une certitude, mais pas avec le même accent. Alors il y a l'accent du Nord qui est plutôt scandinave, l'accent du Sud qui est lié aux multiples personnes qui y sont arrivées. Non, pas véritablement. On ne peut pas dire que ce soit totalement homogène. C'est même plutôt assez différent de part et d'autre. Ne serait-ce que les populations qui l'habitent et puis les paysages que l'on peut y traverser.
Parce qu'on associe le Mississippi avec le Sud, l'ancien Sud d'ailleurs, du temps d'avant la guerre de sécession. Or, le Mississippi va quand même très haut dans le Nord. On peut citer un certain nombre de ces affluents, le Missouri,
oui,
qui est assez au nord, puis il y a aussi l'Ohio, le Tennessee, l'Arkansas, il y a quasiment toute l'Amérique là, qui se retrouve à travers le nom de ces affluents.
Oui, il y a tout le centre, le cœur de l'Amérique, parce que même si le bassin du Mississippi semble aller presque jusqu'à l'océan. En fait, il va vraiment presque jusqu'à l'océan. Il est arrêté par les Appalaches et qui divise finalement les États-Unis du plein des États-Unis du plus vide. Pas totalement vide, hein, bien évidemment, mais du plus vide. Et donc, il y a une variété de pays. Même si le Mississippi est un fleuve qui prend sa source à 450 mètres d'altitude, donc c'est pas des choses grandioses. Mais le Missouri, lui, prend sa source, lui, dans des montagnes plus élevées. Donc, on a une variété de paysages qui est quand même assez importante, avec un fleuve qui les crée lui-même aussi, en passant par sa grande largeur et en traversant des espaces différents, qu'ils soient un peu plus haut, un peu plus bas, aujourd'hui boisés, non boisés.
Marie avait peur de partir, mais je savais qu'il ne pouvait rien nous arriver, tant qu'il y aurait papa et Jack avec nous. Jack était mon meilleur ami, et papa disait toujours que c'était le meilleur chien de garde qui existait. Je savais qu'on devait traverser des rivières et monter jusqu'en haut des collines, mais j'étais contente à l'idée d'arriver un jour dans un nouveau pays.
Vous avez sans doute reconnu, Christian Montes, cet extrait du tout premier épisode de La Petite Maison dans la Prairie. On n'a pas forcément en tête que La Petite Maison dans la Prairie, le livre et ensuite la série, certes a été tourné en studio probablement.
En Californie.
en Californie, mais c'est censé être un paysage qui est un paysage du Mississippi. Est-ce que, en tout cas ça se passe là-bas, Walnut Grove c'est là-bas, est-ce que en regardant cette série on peut comprendre un petit peu quelque chose du Mississippi ?
Alors, on peut comprendre quelque chose de la partie nord des États-Unis, c'est vrai. Le fleuve n'est pas. Alors, Lorraine Gals est née sur le lac Pépin, qui est une excroissance du Mississippi, où on a aussi inventé d'ailleurs le ski nautique ultérieurement. Et parce qu'elle est née dans le Wisconsin, et puis ensuite elle a déménagé plusieurs fois. Oui, alors on voit un des paysages qui était totalement emblématique de cette partie-là nord du Mississippi. Il y a une partie totalement amphibie à proximité immédiate du fleuve, mais ensuite c'était la prairie. C'est la prairie qui est quelque chose, donc ce n'est pas un hasard si l'un des 8 ouvrages qu'a écrit Lorraine Gals, autobiographique, un peu romancé, et réécrit pour des enfants, se passe dans la prairie, la maison dans la prairie, qui était l'élément assez fondamental, avec une prairie qu'il faut imaginer avec des herbes qui pouvaient atteindre 3 mètres, dans laquelle, avec des paysages qui changeaient tout le temps selon l'orientation des herbes, avec tout un ensemble d'iridescence, et où surtout, Laura se sentait libre. Et elle voulait absolument rester là, elle ne voulait absolument pas aller en ville. Alors, la ville, c'était des petits villages autour de la construction des voies de chemin de fer.
Il en reste un peu quelque chose de ces petits villages qui nous sont donnés à imaginer en tous les cas dans la prairie.
La prairie a quasiment intégralement disparu. Alors, vous avez 5 musées Lorraine Gals. Hein, dans chaque endroit où elle a vécu, il y a un musée Lorraine Gals. Donc à Walnut Grove, où elle n'a vécu finalement que 6 mois. Hein, la série prend un des ouvrages et puis l'étire jusqu'à ad nauseam, hein, on pourrait dire. Donc elle n'y a vécu que 6 mois. Alors c'est un tout petit bourg, hein, 599 habitants, qui était créé par les voies de chemin de fer, où Charlene Gals était obligée de travailler puisque la terre ne rapportait pas assez. Donc il n'en reste pas grand-chose d'une certaine manière, si ce n'est ce sentiment un peu d'isolement que l'on pouvait avoir, mais les beaux paysages que décrit Laura. Alors si dans un certain nombre de ces musées, on essaye de recréer la prairie avec ces 8000 légumineuses et puis etc. Enfin, il y a un nombre d'espèces absolument incroyables que les Indiens utilisaient d'ailleurs aussi.
Mais ce que ça peut montrer, peut-être, cette série, c'est comment, alors je ne sais pas si les époques sont exactement les mêmes, le peuplement autour du Mississippi oui. s'est fait, parce qu'il y avait quand même beaucoup de place, en donnant des parcelles
oui.
Aux paysans qui arrivaient et qui pouvaient s'installer là.
Exactement, c'est à peu près la totalité des États-Unis, sauf les colonies initiales et le Texas, qui ont été colonisées selon ce principe du township, donc un découpage en carré, puis ensuite les carrés étaient découpés en carré, puis encore en carré, puis encore en carré, qui était censé donner une unité de base pour permettre à une famille de vivre de manière indépendante. Et derrière cette idée, il y avait à la fois évidemment la volonté de coloniser le pays, au détriment des Amérindiens.
De le mettre au carré.
Voilà, de le mettre au carré. Mais, et aussi de rendre la population, qui à l'époque était largement fondée sur les agriculteurs, indépendante pour qu'elle puisse exercer correctement son droit de vote démocratique.
Donc il y a un état d'esprit qui reste peut-être aujourd'hui
oui.
encore oui. dans la population autour du Mississippi.
Alors autour du Mississippi, pas autour du township, qui là est quelque chose d'assez général, de cette idéologie agrarienne, c'est plutôt les grandes plaines au sens large. C'est là le bassin du Mississippi dans lequel le farmer américain indépendant a pu s'installer et résister tant bien que mal, plutôt au mal d'ailleurs, au bouté de l'agribusiness, du grand business agricole. L'imaginaire autour du Mississippi, il est beaucoup plus fondé sur la nature d'un côté, ou les loisirs de nature dans la partie nord, et puis dans la partie sud, sur tout à fait autre chose, donc des éléments culturels, avec quelques éléments du paysage, comme par exemple la mousse espagnole, enfin ce qu'on appelle la mousse espagnole, qui est associée au Southern Gothic, qui est comme Faulkner, Anne Rice, etc., etc. Donc c'est une sorte de décadence, de dégradation de la végétation dans la moiteur subtropicale, dans une sorte d'exotisme parfois totalement frelaté et fallacieux, mais en fait c'est un peu plutôt associé à cela.
Donc on comprend bien que toutes ces régions autour du Mississippi, ce sont des places fortes de l'imaginaire, oui. Qui correspondent pas toujours à la réalité, en tout cas ce que est devenu cette région aujourd'hui, région qui a été, donc on le comprend, assez riche, voire même très riche. Peut-être pouvez-vous nous parler, Christian Montès, de la ville de Saint-Louis, qui a été prétendante à diriger, à être la capitale des États-Unis d'Amérique.
Oui, alors Saint-Louis était l'une des bases principales de la conquête de l'Ouest. Alors la base principale restait quand même Chicago, parce que Chicago, justement, on avait un accès beaucoup plus direct à New York et un accès sans passer par des fleuves infranchissables à tout le reste du pays. Donc Saint-Louis était devenu quand même un nœud secondaire.
Donc dans les, au 19e siècle.
Oui, c'est ça, au 19e siècle. Mais Chicago reste de toute façon un nœud ferroviaire, le nœud ferroviaire principal. Et Saint-Louis est le deuxième nœud ferroviaire des États-Unis. En 1894, il y avait la plus grande gare du monde avec 42 quais. Enfin, donc, c'était vraiment un élément extrêmement important et aussi une base très importante ultérieurement de toute la grande agriculture. Monsanto, son siège était là. Ralston Purina, la nourriture pour chiens qui est faite aussi à partir de tourteaux, etc. C'est une base ici. Et il y avait aussi de l'aviation,
McDonnell
de
Douglas,
la publicité, voilà,
McDonnell TWA,
Douglas, la publicité. Donc c'était que
des entreprises disparues, hein, vous noterez.
Oui, alors elles sont pas totalement disparues, c'est-à-dire que le siège social est parti ailleurs, mais McDonnell Douglas, disons que Saint-Louis conserve la partie militaire de Boeing qui avait racheté McDonnell Douglas. Et puis Ralston Purina, bah, c'est maintenant Nestlé Purina Care, Pet Care, dont le siège est quand même encore à Saint-Louis. Donc il conserve quand même un certain nombre d'éléments de cela, mais plus le contrôle. Il ne le contrôle plus. Et c'est une ville qui, il est vrai, avait un orchestre symphonique qui reste d'ailleurs un des meilleurs orchestres symphoniques américains et donc évidemment du monde. Des musées, une architecture, etc., etc. Donc Saint-Louis était une ville. Et puis, en 1869, après la guerre de Sécession, elle a dit, nous sommes au centre, bon, pas tout à fait, mais nous sommes au centre. La guerre de Sécession a montré que les États-Unis étaient largement divisés. Donc, pour créer une nouvelle union, eh bien, créons aussi une nouvelle capitale. Nous sommes la quatrième ville des États-Unis en termes de population.
À l'époque.
Bon, oui, enfin, ils avaient triché dans les recensements, donc en fait, ils n'étaient pas exactement la quatrième, mais bon, c'est ainsi. Et à l'époque, voilà. Et donc, et derrière, il y avait bien évidemment un journal, des publicistes, comme souvent aux États-Unis. Mais ça n'a pas marché. Parce que, à partir du moment où une capitale est là depuis 60 ans, 70 ans, où des bâtiments avaient déjà été construits, où une histoire avait déjà été créée, eh bien,
voilà, c'est difficile de déloger Washington. Alors, ils ont quand même eu les Jeux Olympiques d'été en 1904.
Et une exposition universelle, voilà, avec les premiers hot dogs et les premiers cornets de glace.
Alors, on a tout ça bien en tête et maintenant, on se projette dans le Saint-Louis d'aujourd'hui. Il faut faire l'expérience de se balader par Google Street View dans certains quartiers de Saint-Louis. C'est littéralement une maison sur trois ou une maison sur quatre qui est abandonnée.
Oui, alors c'est une des villes qui participe du mouvement qu'on appelle savamment les shrinking cities, les villes rétrécissantes. Bon, c'est une expression pas vraiment très très savante, mais c'est le terme qui est utilisé et qui signifie que le cœur, la ville-centre, voit sa population diminuer radicalement. Saint-Louis, elle est passée de 900 000 à 350 000 habitants, donc elle a perdu énormément d'habitants qui sont partis pour partie dans les banlieues, les blancs sont partis, en règle générale, dans les banlieues, laissant les populations noires dans les centres. Et ces centres se dégradent, parce que les municipalités n'ont pas les moyens de les entretenir. Les municipalités tirent leurs ressources essentiellement des taxes sur l'habitat. Et si cet habitat est dégradé, évidemment, les taxes sont peu élevées. Et si elles augmentent les taxes, ça augmente la fuite. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Et ça crée des forêts urbaines. Alors le centre même, le cœur même de la ville, lui, est tout pimpant. Parce que là, les investissements subsistent. Là, il y a la Grande Arche, il y a 1,5 million de touristes qui viennent, il reste des sièges d'entreprise, il y a un mouvement de transformation des très beaux immeubles de bureaux du début du XXe siècle en appartements, avec parfois Airbnb ou autre chose. Ça reste. Mais dès qu'on quitte cette partie centrale, qui est elle-même préservée d'une certaine façon, et qui pourrait laisser à penser que la ville est relativement prospère, et même assez prospère, même si on voit bien que les gratte-ciels, bon, ils sont un peu vieux, ils commencent à dater des années 80, il n'y a pas de gratte-ciels tout neuf. Donc ça, c'est aussi un indicateur quand même du fait que la ville ne connaît pas une croissance importante. Mais après, on a du vide. on a du vide et des friches se créent.
Un peu comme Détroit.
Exactement, Détroit est l'exemple que l'on montre tout le temps, dont la population elle est passée de 1 800 000 à 670 000. Mais oui, il en reste quand même encore 670 000. Il en reste que 300 000, 350 000 à Saint-Louis.
Ouais. Oui. Et dans des quartiers qui sont très ségrégés en termes aussi de couleur de peau, est-ce que là, on voit vraiment à l'œuvre une forme de racisme de fait, selon vous, Christian Montès?
Ah oui, oui, bien évidemment. Et c'est le cas de la plupart des grandes villes, et même pas simplement des grandes villes américaines, où les politiques municipales se sont appuyées sur des cartes fédérales qui essayaient de déterminer si l'immobilier était risqué ou pas risqué, pour dire « Ah, c'est risqué !» Nous ne faisons rien là. Les banques ont dit, on fait rien là. Les assurances ont dit, on ne fait rien là. Et ces quartiers risqués étaient, comme par hasard, des quartiers où les populations noires étaient extrêmement majoritaires, voire quasi uniques. Mm-hmm. Et donc, ça s'appelait le redlining. Alors, c'est évidemment maintenant totalement interdit. Mais tout un ensemble d'études ont montré que ça restait dans les mœurs.
Donc, politiquement, quelle est la couleur des édiles? Alors, évidemment, c'est différent parce que entre le nord et le sud, il y a des traditions politiques qui ne sont pas les mêmes, mais est-ce que globalement on peut dire que les régions autour du Mississippi ont telle ou telle couleur politique?
Oui, alors elles sont plutôt conservatrices, sauf dans toute la partie sud où il y a des populations noires. Les populations noires sont plus démocrates, donc elles votent plus démocrates, et puis une partie de la population blanche, mais pas la partie majoritaire. Plus on est rural, en fait, plus on devient conservateur. Et puis, Le Minnesota, et particulièrement les Twin Cities.
Alors, c'est quoi les Twin Cities?
Les Twin Cities, c'est Minneapolis et Saint-Paul, qui sont deux villes qui ont été créées.
Elles sont collées.
Elles sont à 15 kilomètres l'une de l'autre, mais pas sur la même rive. Et donc, au début, évidemment, c'était très différent. Et puis, l'une a été fondée comme tête de navigation sur le Mississippi, et l'autre a utilisé les chutes du Mississippi pour devenir une ville industrielle fondée sur la scierie, puis surtout la farine. C'était surnommé Farineville. Oui, c'est ça, Farineville.
Donc ça, cette conurbation-là...
Elle est plutôt... Le Minnesota, globalement, avait une réputation plutôt progressiste.
Oui. Parce que, au fond, c'est une ville qui ressemble davantage à la Californie ou à la conurbation de l'Est, de New York.
Elle est même surnommée parce qu'il y a une vie culturelle quand même qui existe. Et puis une petite ville centrale, Mini-Apple. Mini-Apple, c'est évidemment le jeu de mots.
Une petite Manhattan.
Petite New York, parce qu'il y a des cadres, parce qu'il y a des sièges sociaux, parce qu'il y a des hautes technologies, parce qu'il y a des gens qui reviennent au centre. Alors, la comparaison s'arrête quand même assez vite. Vous avez peut-être 45 000 habitants dans le centre de Minneapolis, vous avez 1 600 000 habitants à Manhattan. Donc c'est une comparaison qui est plutôt au bénéfice de Minneapolis.
Et vous qui avez descendu comme ça tout au long du Mississippi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des campagnes dont on se représente qu'elles sont peuplées de ce que les gens mal intentionnés appellent péjorativement des rednecks? Est-ce que c'est le cas? Quelle est l'atmosphère, au fond, dans ces campagnes-là, qui sont déshéritées pour la plupart?
Alors, les campagnes déshéritées sont au sud. Au nord, elles sont pas déshéritées. Alors, les agriculteurs peuvent avoir des difficultés, temporaires ou pas temporaires, selon le cours des différentes céréales. Mais au sud, oui. Là, vous trouvez des pauvres blancs qui eux, sont passés à côté, finalement, de toute la modernisation. Ils ont perdu parfois leur exploitation agricole parce qu'ils n'ont pas su s'adapter ou n'ont pas pu s'adapter.
C'est des gens qui votent pour les républicains, voire
oui, en règle générale, et puis ils sont parfois suprématistes ou parfois ne votent pas du tout. En fait, les Américains votent relativement peu. Ils votent aux élections présidentielles, mais à 55-60%. Aux élections locales, ils votent à 20%. Ils votent très très peu, les Américains. Ils ont d'autres moyens d'expression, alors qui peuvent parfois être violents, mais parfois qui sont simplement associatifs, culturels, etc., etc. Mais les rednecks, ils vivent plutôt dans des mobil-homes un peu déglingués. Ils ont des bons de nourriture. Leurs enfants vont pas vraiment à l'école. Ils n'ont pas accès aux soins. Ils ont une espérance de vie qui est beaucoup plus réduite. Et ils sont un peu finalement les dépendants des pauvres noirs, mais qui eux sont par rapport à la population noire beaucoup plus nombreux que les pauvres blancs par rapport à la population blanche.
Le Ku Klux Klan est une réalité j'ai envie de dire quotidienne. Enfin, on voit encore cette organisation.
Alors, elle a perdu de sa superbe. Maintenant, vous avez tout à fait d'autres. Vous voyez, par exemple, dans l'assaut du Capitole, il n'y avait pas de Ku Klux Klan, où il y avait des suprématistes, etc., des anti-musulmans, des tout ce que vous voulez, mais il n'y avait pas. Le Ku Klux Klan existe encore, mais il n'est plus le représentant, d'une certaine manière, d'une Amérique putride.
Si le réseau de distribution de l'eau s'est effondré, c'est que la ville n'a plus les moyens de l'entretenir. Les impôts ne rentrent plus. Jackson a perdu un quart de sa population depuis les années 80, passant de 200 à 150 000 habitants, laissant des milliers de maisons abandonnées et de commerces fermés. Deux mois après la crise, si l'eau est revenue au robinet, elle n'est toujours pas potable et la population à 80% noire est à bout.
Les gens en ont marre. Vous savez comme c'est important d'avoir de l'eau dans votre maison. Les gens ne comprennent pas pourquoi cela dure depuis si longtemps. Rien n'est fait. Comment ça peut tourner? Comment les gens les plus modestes peuvent réagir? Il faut que cela cesse, maintenant.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Un reportage du 1er novembre 2022 sur la ville de Jackson, qu'on peut retrouver sur arte.fr. Ce reportage, la ville de Jackson, qui avait été inondée et qui donc ne pouvait plus servir d'eau à ses concitoyens. C'est vrai que ce reportage en particulier montre des villes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on imagine être les États-Unis. Est-ce que ça, c'est un peu une caractéristique aussi de ce centre perdu, comme vous le dites, des États-Unis, Christian Montès?
Oui, disons que là, c'est encore une manière exagérée de montrer ce centre perdu. Jackson étant la capitale du Mississippi. Il ne s'agit pas du tout d'une ville n'importe laquelle. C'est un peu comme si on vous disait la ville de Lille, préfecture. Alors, une capitale d'État a plus de pouvoir quand même qu'une préfecture, mais voilà, la préfecture du Nord n'a plus d'eau, ne peut plus servir de l'eau. C'est un peu l'équivalent.
Parce que ça a duré quand même assez longtemps.
Oui, et puis ça peut
ne pas revenir.
Et dans d'autres villes, à Flint, à côté de Détroit, la même chose a eu lieu. C'est parce que la pauvreté a quand même été très longtemps concentrée dans les centres-villes. Et aussi, cette pauvreté s'est encore accentuée dans les villes desquelles les populations blanches ont fui pour aller habiter dans les périphéries. Ce qui veut dire que la ville de Jackson a perdu, la municipalité de Jackson a peut-être perdu 50 000 habitants, mais ces 50 000 habitants ne se sont pas volatilisés ou ne sont pas allés habiter bien loin. Ils sont allés habiter dans d'autres quartiers qu'ils préféraient, dans lesquels les taxes étaient peut-être moins élevées. Et il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, les taxes, enfin, la manière dont les municipalités peuvent lever des fonds est très strictement réglementé, souvent par les États, puisque les municipalités n'ont que les pouvoirs que ceux que les États leur donnent. Et plus l'État est conservateur, moins il veut d'intrusion publique. Et donc, les infrastructures publiques sont restées souvent municipales, contrairement à la France, par exemple, où la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux, avant de devenir Veolia et Vivendi, enfin bon, sont apparues dès la fin du 19e siècle. Il y a eu des affermages. Et aux États-Unis, non. Mais sans investissement suffisant. Et donc, il suffit d'une petite catastrophe, ou même pas d'une vraie catastrophe, pour que le système s'effondre.
Alors, parfois, il y a des grosses catastrophes. Oui. Comme Katrina, 2005, à la Nouvelle-Orléans. Ça explique aussi beaucoup de choses sur comment on vit avec le Mississippi, comment peut-être on a cherché à trop le dompter, Christian Montès. Qu'est-ce qu'on a appris, au fond, à cause de Katrina?
Alors, on a appris déjà ce que certains disaient dès le 19e siècle, hein, que le système qui a été mis en place par le corps des ingénieurs militaires, puisque c'est lui qui gère le Mississippi, donc que le corps des ingénieurs militaires, c'était seulement des levées. Donc les levées étant des digues latérales, bon, comme à Orléans, hein, donc ça s'appelle comme ça à Orléans, donc comme à la Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, c'est comme à Orléans.
Et d'ailleurs, il y a un lien évident entre
les deux fleuves, même si évidemment la Loire n'est pas tout à fait comparable, mais les mêmes systèmes ont été utilisées. C'est-à-dire, on commence par faire une digue, et puis on se rend compte que le fleuve se rehausse sur ses propres sédiments. Bon, la Loire peut-être un peu moins. Mais hop, on rehausse les digues, puis on rehausse les digues, puis on rehausse les digues. Et au bout d'un moment, on a des digues de 10 ou 11 mètres. Et puis on se rend compte qu'elles sont évidemment beaucoup plus fragiles. Et comme il n'y a jamais assez d'argent pour les entretenir correctement, comme en plus, lors de Katrina, les ingénieurs militaires étaient en Irak, puisqu'il y a quand même la guerre en Irak, ils n'étaient pas là pour saisir les premiers signes d'effritement, d'effondrement, on se retrouve avec une catastrophe, c'est-à-dire une digue, si elle cède, il n'y a plus rien à faire, d'une certaine façon. C'est pas un système complet. Pour gérer un fleuve, il faut tout un système de barrages régulateurs, de réservoirs. Mais comme c'est un fleuve de plaine, on peut pas faire des grands réservoirs. Et puis, si on fait des réservoirs, on inonde un certain nombre de zones qui sont extrêmement productives, etc., etc. Et puis, les crues du Mississippi sont déjà tellement intenses que c'est très, très difficile à
Parce que le climat favorise quand même aussi les événements climatiques extrêmes, les ouragans.
Oui,
ça aussi, c'est important à prendre en compte.
Oui,
dans cette
particulièrement
région du Mississippi.
Oui, d'autant plus que le Mississippi a toujours un débit qui est quand même assez important. Son étiage est déjà assez haut parce qu'il a à la fois des pluies, enfin un apport de neige et de pluie dans le nord, de pluie de différentes saisons parce qu'il s'étire sur des milliers de kilomètres, donc du nord au sud, donc dans des climats différents. Donc il a pas mal d'apports d'eau, ce qui fait qu'il n'est jamais presque à sec, d'une certaine façon. Alors il est pas très très profond parce qu'il est très large, mais il est jamais presque à sec. Et donc les événements climatiques existaient déjà, les ouragans, etc. Mais à la fois la réduction du delta, qui est un absorbeur de l'énergie d'un ouragan, par exemple, eh bien, a accru la vulnérabilité de la ville de la Nouvelle-Orléans. Le fait que la ville de la Nouvelle-Orléans s'enfonce parce qu'on est obligé toujours de pomper, que le fleuve se rehausse, donc elle se retrouve plus bas, finalement, que le niveau du fleuve, alors qu'auparavant, elle ne l'était pas. Et d'ailleurs...
Ça, c'est assez difficile à croire. On le voit que vous reproduisez des schémas dans votre livre. C'est une ville qui s'enfonce et qui, maintenant, est protégée par des digues, c'est-à-dire protégée par pas grand-chose, en réalité.
Venise, voilà... C'est un peu le sort de Venise, construit sur une lagune. Alors là, c'est pas obligatoirement la lagune, parce que les Français, quand ils étaient arrivés, le quartier français n'a pas été inondé, parce que il est sur la partie haute du méandre, pour justement résister à ce genre de choses. Ce sont les quartiers les plus récents, et puis aussi, comme cela a pu arriver en France, les maires successifs ont autorisé la construction dans des zones qu'ils savaient pertinemment inondables. Donc à partir du moment où la digue, la levée cède, c'est la catastrophe. Et elle cède parce qu'aussi elle n'est pas assez bien entretenue, parce qu'on n'a pas prévu. Et elles avaient aussi déjà été faites, ces digues, toujours pour des crues centennales.
Mmh. Et aujourd'hui, comment se porte cette ville, presque 20 ans après Katrina? Elle fait partie aussi d'un écosystème probablement assez mis en danger. Qu'en est-il, Christian Montès?
Alors c'est une ville qui connaissait un déclin relatif depuis déjà pas mal de temps. C'est son âge d'or, c'est l'année 1859-1860. Donc après, elle avait réussi à se réinventer en creusant des chenaux plus importants, les hydrocarbures à partir du début du XXe siècle. Ok, mais sa place relative dans les États-Unis avait cessé de se réduire. Mais Katrina a été un accélérateur d'injustice en fait, parce que ceux qui ont pu revenir, les plus pauvres n'ont pas toujours pu revenir. Et même si vous avez deux sons de cloche d'une certaine manière, d'un côté on vous dit oui, regardez, c'est devenu Hollywood South. On y tourne des séries, Trémé, encore d'autres. Et puis il y a évidemment toujours eu le tourisme qui était extrêmement important, avec le vieux carré, avec le jazz, avec les autres musiques que l'on y trouve, puisqu'on y trouve des tas d'autres musiques aussi. Mais son rôle fluvial est toujours important, certes, mais pas par exemple dans les marchandises à très très haute valeur ajoutée. C'est pas un grand port de conteneurs, c'est pas un grand port qui importe des marchandises très très importantes. C'est pas une ville qui transforme énormément de choses. C'est pas une ville qui a des sièges sociaux, des très grandes sociétés d'armement mondiaux. Elle a des sociétés d'armement, mais beaucoup plus petites. Et Katrina a justement accentué encore les inégalités, les injustices, et a rendu plus difficile. Alors, je n'aime pas tellement le terme de résilience, parce que là, certaines personnes n'ont, il y a strictement aucune résilience de rien du tout. Elles ne sont même pas revenues. Donc, c'est la résilience de ceux qui ont des sous, donc, vous voyez, ou du pouvoir, beaucoup plus que d'autres.
Donc, en fait, vous décrivez un Mississippi, une région autour du Mississippi, qui est largement oubliée de la mondialisation. Et c'est là qu'on comprend comment aussi les États-Unis sont un pays très divers, avec certaines parties qui sont davantage intégrées à la mondialisation et d'autres parties qui le sont un petit peu moins. Il faudrait évidemment nuancer ce que je viens de dire là, mais on doit se souvenir aussi que c'est un très grand pays, très différent en fonction des régions où on
va. Oui, alors elle est intégrée dans la mondialisation, mais en tant qu'espace plutôt dominé. C'est-à-dire les centres de décision sont extérieurs. Alors pendant la colonisation, évidemment, ils l'étaient, mais pendant un siècle, ils avaient repris en partie. Alors quand je dis « ils », c'était beaucoup plus les hommes blancs, hein, évidemment. Les descendants des colons et les Américains indépendants, mais où le pouvoir était quand même aux mains des hommes blancs essentiellement. Donc ces hommes blancs avaient pris quand même le pouvoir et ils l'ont reperdu de nouveau. C'est beaucoup plus cela. Et leur insertion dans la mondialisation, elle est en partie dans la mondialisation du commerce de céréales, mais qui n'est pas le plus important. Elle est en partie dans la mondialisation du tourisme, plutôt dans sa partie sud, avec un certain nombre de touristes internationaux, mais c'est beaucoup moins que d'autres régions des États-Unis.
Vous avez évoqué la colonisation. Est-ce qu'il y a encore des stigmates de cette colonisation, et notamment française? La Louisiane, le nom même de la Louisiane fait référence au roi Louis XIV. Ça reste encore présent. Vous faites bien attention au début dans votre ouvrage de bien dire que d'où vous parlez, de signaler qu'il n'y a pas de fascination évidemment pour la colonisation française en Louisiane. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Les stigmates de la colonisation, le premier, c'est l'importation d'esclaves. Enfin, quand je dis l'importation, c'est le passage forcé de milliers d'esclaves d'Afrique en Amérique. Ça c'est le point fondamental, puisque la colonisation telle qu'elle a été, elle n'était pas du tout peuplante. Mais il y avait énormément d'esclaves. En 1750, il devait y avoir 10 000 non-autochtones français dans un espace de 1 ou 2 millions de kilomètres carrés. Donc il y avait vraiment peu de monde. Ils ont même recouru à la déportation de prisonniers. Manon Lescaut, par exemple, est déporté en Louisiane, par exemple. Pardon. Donc il y a ça. Et évidemment, ça a fait un patrimoine que les Américains ont continué ensuite. Ça a fait un patrimoine bâti absolument extraordinaire que l'on retrouve dans tout le Sud. Ces maisons somptueuses dont on montre maintenant l'envers du décor. C'est-à-dire, si la maison était somptueuse, c'est bien parce que derrière, il y avait des gens qui habitaient dans des conditions lamentables et qui faisaient tout. Et qui permettait justement au maître de maison, à la maîtresse de maison et à leur famille de porter beau, d'importer de Paris les dernières choses, et puis de faire des grands bals.
Un peu, bien sûr, comme en France, dans les villes qui ont bénéficié du commerce triangulaire.
Donc ça, c'est un des éléments extrêmement importants. Et puis la toponymie. Voilà, évidemment, la Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, Prairie du Chien, Saint-Cloud. Voilà, vous avez tout un ensemble, Saint-Paul, des villes, Cap Girardeau, qui sont issues de cette colonisation française. Et ça va jusqu'au Missouri. Hein. Vous prenez la capitale du Dakota du Sud, qui est sur le Missouri, elle s'appelle Pierre. Ouais. Et la ville en face s'appelle Fort Pierre, de deux pierres différentes.
Écoutez, Christian Montes, je vous propose de nous arrêter là, dans ce voyage sur les bords du Mississippi. Vous restez avec nous. On va écouter à présent une dernière séquence qui est aussi un hommage. Vous allez l'entendre. Une dernière séquence américaine dans cette émission pour revenir sur la figure d'un homme qui a beaucoup compté dans le champ de la géographie. Il s'agit de Mike Davis, qui est mort le 25 octobre 2022 à l'âge de 76 ans. Il était l'auteur d'un livre qui est devenu un classique, City of Quartz, un livre que l'on pourrait définir comme une biographie de la ville de Los Angeles. Et c'est un livre que vous avez préfacé et traduit avec Michel Dartevel, Marc Saint-Huppéry. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors ce livre, on peut se le procurer dans sa version française aux éditions de La Découverte. Marc Saint-Huppéry, la mort de Mike Davis a été pour beaucoup un choc, sans doute parce que c'était un auteur culte. Comment vous expliquez ce sentiment-là que Mike Davis était quelqu'un de très important dans le champ de la géographie et puis même au-delà du champ de la géographie?
Eh bien, il faut d'abord dire que Mike Davis n'est pas un universitaire au départ. C'est quelqu'un qui a une biographie digne de Jack London ou de personnes comme ça. Il a été camionneur, il a été ouvrier d'abattoir, etc. Il était fils d'ouvrier. Puis bon, il a fait entre militance, boulot de survie, syndicalisme, et il a aussi fait des études. Il a fini par devenir professeur d'études urbaines, etc. Et il a publié ce livre en 1990. qui a été critiqué parfois comme un livre qui était d'une prophétie de malheur, qui faisait un portrait assez noir de Los Angeles, tout en disant que lui, il dit « je fais un portrait noir, mais j'adore Los Angeles, c'est un amoureux de Los Angeles ». Un truc au croisement de Walter Benjamin, Frédéric Engels et Raymond Chandler, hein, un peu si on veut. Et le problème, c'est que 18 mois après, il y avait les émeutes de 92, les émeutes de Los Angeles, qui ont été extrêmement violentes et qui ont semblé confirmer complètement son diagnostic. Après quoi, il a été pris nettement plus au sérieux. Et c'est pareil, il avait publié en 98 un bouquin qui s'appelle « Écologie de la peur »,« Ecology of Fear », où il parlait beaucoup de la question des incendies, de la question de l'instabilité environnementale de la Californie du Sud. Et effectivement, la question des incendies et de la soutenabilité de la consommation d'eau et de l'extension urbaine et de la spéculation immobilière en Californie du Sud est aujourd'hui une question sur les lèvres de tous.
Donc il a parlé aussi de Katrina. Hein,
et il a parlé de la Nouvelle-Orléans. Vous parlez du Mississippi, il a aussi écrit sur Katrina et sur la Nouvelle-Orléans. Oui.
Donc c'est quelqu'un qui ressemble un peu à un prophète. C'est peut-être pour ça que son livre le plus connu, City of Quartz, dont on va parler avec vous plus précisément, a aussi ce statut d'icône dans le champ de l'urbanisme, dans le champ de la géographie.
Oui, mais il aimait pas trop qu'on le traite de prophète, encore moins de prophète de malheur. Il disait simplement, écoutez, il suffit d'aller dans la rue et de fréquenter les gens normaux, mais y compris des gens, lui, fréquentait toutes sortes de gens. Y compris, il a beaucoup participé à la trêve des gangs après 1992. Il connaissait des gens des gangs de Compton, etc. Si vous parlez aux gens, si vous trimballez dans la rue, etc., vous pouviez voir les signes de ce qui allait arriver. Donc, c'est pas de la prophétie. Il a de même écrit un livre en 2005 sur la grippe aviaire et sur le danger d'une pandémie mondiale. Un livre relativement aussi prophétique par rapport au Covid. Enfin, il avait simplement étudié, il a lu des livres de virologie, il s'est trimballé, il a parlé avec des chercheurs. Donc, quand on sait écouter, quand on sait où aller rechercher, quand on sait savoir quels sont les interlocuteurs, on peut plus ou moins prévoir des tendances.
Donc, c'est pas un scientifique comme les autres, c'est un scientifique de terrain, et puis quelqu'un qui a même vécu dans sa chair, vous le disiez, il a travaillé dans les abattoirs, il a été chauffeur routier, il a fait tout un tas de métiers comme ça, qui a vraiment vécu la ville. Et c'est peut-être ça qui fait que ces livres ont quelque chose de spécial, en plus de tout l'apport scientifique qu'il y met.
Tout à fait, tout à fait. Et de fait, lui-même raconte qu'il il a une vie assez extraordinaire. 90 à 95% de ce qu'il raconte est totalement authentique et vérifié. Il y a une partie de romantisation, de fabulation, parce que sa vie est tellement étonnante qu'il peut broder un peu sur les marges. Mais c'est vrai qu'il a été arrêté plusieurs fois par la police, dans des manifestations. Et il a été, y compris pour Jerry Brown, hein, le gouverneur de l'époque de Californie, il s'est occupé de la question de la trêve des gangs avec un sénateur de l'époque, Tom Hayden, qui est un ancien figure importante du mouvement étudiant dans les années 60. Donc, il fréquentait toutes sortes de gens que parfois les chercheurs en géographie ne fréquentent pas nécessairement, si vous voulez.
Alors, on va écouter rapidement la voix de Mike Davis.
I've spent my entire life leading this imaginary existence.
J'ai passé toute ma vie à vivre cette espèce de vie d'existence imaginaire.
Always wanting to be Jewish from New York or toujours, a French intellectual.
Toujours rêvé d'être un juif new-yorkais ou d'un intellectuel français.
But then forced to realize this is me.
Mais je suis obligé de reconnaître que tout ça, c'est moi.
This is my authentic background.
C'est ça mon background, c'est ça mon arrière, ma toile de fond, c'est ici.
Tout ça, c'est évidemment ce Los Angeles un peu bazar, avec ses autoroutes partout, ce qu'il décrit très bien dans City of Quartz, les lieux très privatisés aussi de cette ville, que malgré tout, il aime tout en la détestant hein, par certains aspects. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien, ce petit bout d'entretien avec Daniel Mermet dans La Basse, j'y suis, où il dit qu'il s'imaginait volontiers comme juif new-yorkais ou intellectuel français, ça lui ressemblait ça?
Oui, enfin, il exagère peut-être un peu, mais ce qui est exact, c'est qu'à partir du moment où jeune adolescent, son père, bien qu'ouvrier, était conservateur, très patriote réganien, et lui, un bref temps, il a été chez les scouts des Marines. C'est-à-dire qu'il a eu une petite période de réactionnaire de guerre froide adolescent, et puis après, le mari d'une cousine à lui, le mari noir d'une cousine à lui, l'a engagé dans le mouvement des droits civiques, dans les mouvements antiracistes, etc. C'est clair que la gauche aux États-Unis, elle est très identifiée. Traditionnellement, la gauche, c'est les juifs de New York, si vous voulez, quoi. Donc, je pensais ça aussi quand il dit un intellectuel juif new-yorkais. Et évidemment, c'était la grande époque où tout le monde lisait Sartre, puis Althusser, puis beaucoup d'auteurs français qui étaient très influents autour des années 60.
D'ailleurs, il cite Baudrillard, par exemple, oui, oui. Dans City of Quartz, dont il y a un fond intellectuel.
Possible qu'il ait pu. Et puis, il s'est découvert que finalement, il était peut-être quelque chose de plus original, de plus intéressant que ça, en étudiant ses propres racines.
Alors, qu'est-ce que ça raconte, City of Quartz? On dit que c'est une biographie de Los Angeles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette qualification marque Saint-Exupéry?
Bah, écoutez, c'est une biographie en tant que c'est une ville qui a plusieurs âmes, mais qui a en particulier une âme double. C'est une ville réelle qui reflète des tendances lourdes du capitalisme américain et de l'urbanisme extrême de ce capitalisme américain, avec en particulier, il raconte très bien, fin du XXe siècle, une lutte pour éliminer les transports publics, les transports en commun, et pour faire une capitale de l'automobile, où on sait ce que c'est avec les autoroutes que vous avez décrites, etc. Et puis c'est aussi la capitale de l'imaginaire, parce que c'est Hollywood. Et c'est pas seulement Hollywood, mais c'est de là que surgissent un certain nombre de mouvements ésotériques, New Age, l'évangélisme pentecostal est surgi aussi à Los Angeles. Tout un tas de formations qui relèvent de l'imaginaire sont nées aussi à Los Angeles. Évidemment, à travers le cinéma, elles ont irrigué tout l'imaginaire occidental, et pas seulement occidental.
Alors, l'imaginaire, c'est aussi, par exemple, des bâtiments postmodernes de Frank Gehry. Alors, il déteste Frank Gehry. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il reproche, au fond, à cet architecte?
Il reproche à Frank Gehry d'avoir suivi le courant d'une architecture forteresse, un peu d'une architecture militarisée et très corporative.
Très fermée sur la rue. Et ouverte du côté privé, c'est-à-dire sur les jardins.
Oui. Qui participe à la privatisation et à la quasi-militarisation de l'espace public, si vous voulez quoi.
Est-ce que ce livre, 40 ans après quand même, sa sortie, est toujours d'actualité, ou est-ce que Los Angeles, ça n'est plus ça, c'est peut-être encore pire que ce que décrit Mike Davis, ou peut-être que c'est mieux?
Alors, il y a des choses qui ont changé, hein. C'est une ville qui évolue très vite, mais enfin, les pathologies fondamentales de la ville n'ont pas vraiment changé. Alors, la violence a un peu baissé, comme elle avait baissé aux États-Unis en général, hein, sur la côte Est aussi, dans les dernières années, pour diverses raisons sociodémographiques. Mais ce que disent aujourd'hui les urbanistes, les sociologues, les géographes, c'est que au fond, ce diagnostic est loin d'être complètement dépassé. À quoi se rajoutent d'autres diagnostics, plus de nature environnementale, qu'il a fait par la suite dans ses livres suivants, qui ont été complètement avérés par la véritable catastrophe climatique rampante que vit la Californie du Sud.
Est-ce que ce livre, City of Quartz, a pu changer le destin de Los Angeles? Parce que comme il a été beaucoup lu, et que c'est une référence, au fond, pour les urbanistes, on peut imaginer que peut-être ça a modifié un tout petit peu, par certains aspects, à certains endroits, la ville elle-même?
De Los Angeles elle-même, je n'en suis pas certain, mais c'est clair que ça a été une leçon pour beaucoup d'architectes et d'urbanistes pour essayer de ne pas faire la même chose ailleurs. Et puis lui-même a été sollicité. Il a été sollicité, comme je vous disais, par le gouverneur de Californie pour l'aider à comprendre le monde des gangs, etc. Et comment pour arriver à un minimum de paix sociale à Los Angeles. Il a été élu par des travailleurs sociaux, par des politiciens.
On a l'impression que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas tellement le monde tel que Mike Davis souhaiterait qu'il soit. On a l'impression qu'on est plutôt toujours sur une espèce de pente du Los Angeles capitaliste que lui dénonce.
Beaucoup de ces tendances négatives qu'il décrit se sont aggravées. Pas partout, pas de façon unanime. Il cite lui-même des exemples, non seulement au Canada, mais dans certaines villes des États-Unis, de développement et de contrôle, je dirais, municipal ou local, démocratique, de l'excès de pouvoir du secteur immobilier, des choses qu'il fait. Hein. Mais bon, ce sont des expériences minoritaires. Et surtout, il invite les gens à lutter. Il invite les gens à s'organiser, à lutter, à prendre en main leurs affaires au niveau local.
Merci beaucoup Marc Saint-Upéry, traducteur donc de City of Quartz, notamment de Mike Davis, qui donc s'est éteint le 25 octobre 2022 à l'âge de 76 ans. Merci encore.
Merci à vous.
Une réaction à votre tour, Christian Montes, sur ce que vient de dire Marc Saint-Upéry?
Ben, je suis d'accord avec ce qui a été dit. En fait, Mike Davis est un des exemples de la manière dont on peut devenir professeur d'université aux États-Unis. C'est un peu plus fluide que chez nous. Chez nous, il y a tout un ensemble de choses à passer. Il faut avoir un doctorat, il faut ceci, il faut cela. Là-bas, des gens qui, au départ, ne le sont pas, il a quand même fait des études, hein, bien évidemment, et un doctorat, mais peuvent passer plus de manière plus fluide d'un état à un autre. Et il est aussi assez représentatif du côté très radical, comme ils disent, c'est-à-dire extrême gauche. S'il y a une extrême gauche aux États-Unis, elle se réfugie quand même en partie dans un certain nombre de mouvements de minorités et dans les universités, qui sont une sorte de havre de paix.
Chose qui pourrait peut-être en effet nous inspirer en termes de méthode dans nos universités ici. Merci beaucoup Christian Montes, professeur de géographie à l'université Lyon 2, de nous avoir permis aujourd'hui de descendre le Mississippi en votre compagnie.
Pour aller plus loin dans ce voyage, je recommande évidemment votre livre « Mississippi, le cœur perdu des États-Unis ». Il est publié par les éditions du CNRS. C'était Géographie à la carte, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis, Marie-Claire Mabadi et Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Portrait de stratège pour une histoire militaire.
Xavier Mauduit.
Voici Sun Tzu et l'art de la guerre. Et César avec la guerre des Gaules. Comment vaincre sans péril inutile? Clausewitz a-t-il inventé la guerre absolue? Et voici Che Guevara et la guérilla. Mais faire la guerre, ce n'est pas seulement combattre par les armes. Stratège, vous verrez du pays, qu'il disait.
Le cours de l'histoire, cette semaine à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
L'Hyper Weekend Festival revient du 20 au 22 janvier avec des créations exceptionnelles.
Philippe Catherine avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Eddie Depreto et ses 12 pianistes.
Arthur H. en concert immersif.
Benjamin Epps pour la première fois avec son nouveau groupe.
Superpose et Robin Faro sur le répertoire de Marin Marais.
Deux soirées FIP 360 avec Acide Arabe, LBA Calabat.
Et un club éphémère.
Réservation sur hyperweekendfestival.fr.
En partenariat avec la SACEM et France Télévisions.
La semaine prochaine dans Géographie à la carte, nous parlerons des maisons individuelles, du pavillonnaire aux maisons d'architectes. Ce sera avec Anne Lambert et Delphine Aboulker. Mais tout de suite sur France Culture, il est 22h. C'est l'heure du journal que vous nous présentez ce soir, Catherine Pétillon. Bonsoir.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Les Français devront travailler plus longtemps. La Première ministre est déterminée à repousser l'âge de départ à la retraite. Elle l'a redit ce matin aux syndicats. Eux restent prêts à se mobiliser. Analyse dans ce journal de Camille Magnard. Une basketteuse contre un marchand d'armes. La championne américaine Brittney Griner a été libérée par la Russie dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le récit de notre correspondant à New York, Loïc Loury. Puis la Croatie va rejoindre l'espace Schengen de libre circulation en janvier prochain. Les États membres ont approuvé cet élargissement. En revanche, la Roumanie et la Bulgarie se sont heurtés au veto de l'Autriche et des Pays-Bas. Nous en parlerons avec l'invitée de ce journal, Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS. Le gouvernement reste déterminé à repousser l'âge légal de départ à la retraite. Elisabeth Borne l'a redit aux représentants des principaux syndicats qu'elle recevait ce matin pour, dit-elle, sauver notre système de retraite profondément.